Chers auditeurs et chères auditrices, nous continuons notre série concernant Jésus-Christ, la lumière, jusqu'au retour de Jésus-Christ, le Messie. Nous arrivons à l'étude numéro 24 et nous nous rappelons que les enfants au ciel étaient en train de chanter à la gloire de leur Sauveur et Seigneur. Quelque chose de merveilleux. Et le titre pour aujourd'hui, on peut dire que ce sera « La gloire de la croix ». Comme s'éteignait ce dernier chant. Je levai les yeux, ô merveille, le dôme qui se trouvait au-dessus de moi s'ouvrit et je vis des êtres dont la gloire était plus grande encore. Muette de saisissement en présence d'une telle lumière, je me rapprochai de mon guide qui me dit « Les scènes que tu viens de voir, Marietta, ne sont que les prémices des joies à venir. Ici tu as été accueilli et ton Rédempteur s'est manifesté à tes yeux. Mais regarde, au-dessus de toi, c'est la gloire de la croix qui d'en haut apparaît. Des esprits rachetés, venant de la même race que toi, sont là, rassemblés. Alors visible parut une croix portée par 12 personnes formant un cercle sur lequel je pus lire « Patriarche, prophète et apôtre ». Au-dessus d'elle se trouvait l'inscription « Jésus de Nazareth, roi des Juifs, à son pied, vêtu de blanc, se tenait l'esprit d'une femme prosternée dans une attitude de sainte adoration. Elle embrassa la croix, puis descendant jusqu'à moi, me dit ces mots, « Bienvenue, toi qui viens d'un monde de douleur. » Vois, c'est par la volonté de Jésus, le crucifié, mon Seigneur et Sauveur, que je viens pour être en communion avec toi. Ce n'est que par sa permission que tu es admise en ce lieu. Ne sois pas triste, même s'il t'est demandé de retourner vers tes amis sur la terre. La pensée de me retrouver de nouveau exposé au péché et à la misère de ma vie première m'affecta à un point tel qu'il me sembla quitter brutalement le ciel et rapidement descendre vers la terre. Mais à cet instant, mon guide me prit dans ses bras et me dit « Lorsque tu repartiras, ce sera chargé d'un message d'amour divin pour la terre. Puis au temps fixé, libéré des liens de la mort, tu entreras ici comme membre de la Sainte Compagnie. » Alors la femme qui s'était tenue au pied de la croix s'adressa à moi en ces termes. « Marietta, tu as été conduite jusqu'ici en vue d'une mission sainte et dans ce but, j'ai le privilège de t'instruire sur beaucoup de choses qui touchent à la terre et au ciel. La pensée de repartir avait accablé ton cœur. Cependant, quand tu nous quitteras, ce sera chargé d'un trésor, celui de la vérité à faire connaître à tes semblables. Sache avant tout que le ciel tout entier vénère la croix. Devant elle se prosternent ses saintes myriades et autour d'elle les rachetés se plaisent à demeurer. Les religions terrestres ne sont qu'une pâle ou qu'un pâle reflet comparé à ces choses. Même dans ses conceptions les plus élevées, une âme humaine ne peut se faire qu'une idée vague et imparfaite de ce que est sa condition ici. C'est pourtant à une faible distance au-dessus de vos plaines et de vos vallées que commence l'ordre parfait des lieux célestes. Tout autour de la terre évoluent les anges gardiens. En nombre incalculable, ils se mêlent autant qu'ils en ont la permission aux habitants de la terre. Il ne se passe ni jour, ni heure, ni instant que chaque mortel ne soit suivi du regard par l'ange qui a été désigné pour veiller sur lui et sur elle. L'homme ne connaît pas la nature du péché, pas plus que la plénitude de la grâce contenue dans sa rédemption. Des saisons sans nombre empêchent la lumière du ciel d'atteindre et de contrôler l'humanité qui, misérable, court vers la mort. Mais le temps approche où l'homme va prendre davantage conscience de la réalité des lieux célestes quand son attention sera attirée plus fortement sur l'évidence de sa vie intérieure. La rédemption de l'homme est proche. Ô anges, entonnez vos cantiques, car bientôt le Sauveur descendra accompagné de ses saintes cohortes. Ensuite, après un hymne d'une immortelle beauté, la femme ajouta : observe bien ce qui se passe autour de toi, car vois-tu, ton esprit ne va pouvoir capter qu'un faible reflet de la joie qui inonde ce lieu de paix. Tu l'as remarqué en descendant, j'ai embrassé la croix. Chacun des saints également éprouve cette même joie immense à pouvoir exprimer ainsi reconnaissance et honneur à son Rédempteur qui s'est offert lui-même en sacrifice. Sa voix se tue un moment pendant lequel, comme à distance, des voix s'élevèrent en de doux et mélodieux Alléluia. « Qui sont ceux-là » demandai-je. La femme répondit « Ce sont ceux des périodes de l'Inquisition et des amphithéâtres du temps des Romains. Ce sont les martyrs qui ont été offerts aux bêtes sauvages. Ne veux-tu pas demeurer pour toujours dans ce monde de paix, de joie, d'amour divin? Ne souhaites-tu pas prendre une humble part aux cantiques de ces cœurs immortels? Alors que ton ancienne incrédulité, ton manque de foi et de consécration te soit un solennel avertissement, il n'est pas d'autre chemin que celui que Christ, le Rédempteur, a tracé pour obtenir l'héritage de ces lieux bénis. Saint Jean chapitre 14, verset 6. Ces dernières paroles ramenèrent présent à ma mémoire tous mes doutes passés, mon manque de confiance en mon Sauveur et de consécration à son service. Mon esprit chancela et je compris la justesse de ce doux reproche et poser la question « Y a-t-il encore de l'espoir pour moi ?» ou bien la possibilité d'avoir ma place dans cette vie céleste est-elle perdue pour toujours ? Oh, ne pas retourner sur la terre, que ne puis-je demeurer à jamais au pays où la paix coule, une rivière comme une rivière, doucement, et où les effluves d'un amour sans ombre passent comme des vagues de cœur en cœur. Sois fidèle, désormais. Sois fidèle à la lumière reçue, me dit l'Esprit céleste. Alors, à la fin, tu pourras jouir de la félicité du ciel. Marietta, la scène que tu vas voir passer maintenant, elle est très importante. Dans l'assemblée qui est là, sont les prophètes et les saints qui ont été martyrs. Regarde, leur vêtement est blanc, pur, transparent. Sur leur poitrine, il y a l'empreinte de la croix. Dans leur main gauche, un encensoir d'or. Dans leur main droite, un petit livre. Comme la scène se dévoilait, je vis une chose qui se dressait au milieu de toute la multitude rassemblée. C'était une pyramide dont la colonne centrale était composée de perles et de pierres très précieuses. Elle était sertie de croix faites de diamants. Sur la colonne étaient gravés les noms de ceux qui ont souffert à cause de leur amour pour la vérité et n'ayant attaché aucun prix à leur vie, ont enduré la persécution même jusqu'à la mort. En haut de la colonne se tenaient trois esprits dans une attitude d'humilité et d'adoration. Ils portaient dans leurs mains et au-dessus d'eux une croix d'où flottait une bannière déployée. Ceux-ci, dit mon guide, sont trois élus, un prophète, un patriarche et un apôtre. Ils représentent le cercle des saints désignés pour accompagner le retour du Fils de l'homme. Ils s'avanceront le jour venu et rassembleront les élus venus des quatre vents, depuis le point le plus éloigné de la terre jusqu'au point le plus éloigné du ciel. Les livres que ces esprits tiennent en main décrivent l'ordre de la création, la rédemption de l'homme et les principes qui gouvernent à jamais ceux qui obéissent à Dieu. Les enfants dans le paradis, comme cette scène, s'estompaient. Voilà que l'esprit qui avait embrassé la croix leva sa main. Sa main où brillait la lumière de la vie, et deux enfants s'approchèrent. En arrivant tout près, ils s'inclinèrent gracieusement et plaçant chacun une main dans la sienne, regardèrent son beau visage et lui sourirent doucement. Elle me dit, « Ces enfants ont quitté la terre étant encore des bébés et dans leur innocence, ils furent conduits dans le paradis. » L'aîné des deux, s'adressant à moi, dit, « Marietta, je me réjouis de te rencontrer, car tu vas retourner vers ceux qui nous ont aimés et qui pleurent depuis notre départ dans la vallée de la mort. Lorsque tu te trouveras de nouveau parmi les morts, les mortels, eh bien, dis à celui qui se tient là, à côté de ton corps, ce que nous avons appris. Tandis que nos parents sont dans l'affliction à notre sujet. Nous buvons à la coupe débordante de bonheur, celui de l'esprit rendu libre. Marietta, ce monde-ci est le seul que nous connaissions. C'est ici que nous nous sommes éveillés à la réalité de notre existence. La terre, nous l'avons visitée en compagnie de nos anges gardiens, mais elle ne ressemble pas au ciel. Nous y avons vu douleur, souffrance et mort, alors qu'ici, tout est harmonie, joie et vie. Puis, baissant les yeux, l'enfant parut plonger dans une profonde méditation et tout devint silencieux. J'essayais de comprendre ce qui avait pu capter son attention, mais je vis que ce changement avait pour raison le passage d'un ange. Oui, celui-ci, dans son ascension, venait de passer juste au-dessus de nous. Oh, quand je l'ai vu, combien à mon tour j'en fus bouleversé. Une lumière l'enveloppa comme un vêtement habilement ouvragé. Et quand ses mouvements, là, dans ses mouvements, ils étaient, on peut dire, l'harmonie des harmonies. Car je voulais le suivre et je m'écriais, « Dis-moi, cet ange si glorieux, qui est-il ? » Je ressens en moi sa sainte influence et je brûle du désir de me trouver dans la compagnie d'êtres si radieux, de jouir de leur présence. Celle qui me parlait m'expliqua, cet ange-ci appartient au paradis des petits-enfants. N'as-tu pas lu dans l'Évangile cette expression bénie du Rédempteur, dans le ciel, leur ange voit continuellement la face de leur Père céleste. Matthieu, chapitre 18, verset 10. Cet ange a pour mission de protéger les tout-petits. Son rôle est d'aller à la rencontre de leur esprit lorsque ils passent du monde extérieur au monde spirituel. Le voici pour toi qui s'arrête dans son ascension. Il s'arrête pour toi. Il étend ses bras. Et que vois-tu, Marietta ? Une pâle petite lumière, répondis-je. Puis l'ange souffla sur son précieux fardeau comme pour lui faire part de sa vie et le serra sur son cœur avec une infinie tendresse surpassant celle que peut témoigner une maman terrestre. Je compris que ce petit esprit était dans le repos. Je ressentais si fort cette réalité céleste qui entourait l'ange, l'inondait, que à nouveau, je songeais maintenant à m'élancer à sa suite, et pour cela, pour jouir avec l'enfant d'une bénédiction qui ne finira jamais. Mais comme je faisais des efforts pour y parvenir, l'ange prit son envol, un éclair de lumière, puis il disparut. Ce fut alors une scène bien différente. Au-dessous de moi, dans une petite chambre, je vis une femme agenouillée auprès du corps de son enfant qu'il avait quitté. Elle était comme convulsée, tantôt des flots de larmes jaillissaient de ses yeux, tantôt son visage devenait de marbre, le regard fixe et glacé. Puis elle se mit à trembler de tout son corps, en couvrant de baisers les petites joues froides de son bébé sans vie. À ce moment-là, entra un homme grave, vêtu de noir. La maman, en pleurs, s'écarta du berceau et l'homme silencieux s'approcha et lui prit la main. Relevez-vous, sœurs, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1, verset 21. Jésus a dit, acceptez que les petits-enfants viennent à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Saint Matthieu, chapitre 19, verset 14. Car je vous le dis, leur ange contemple continuellement la face de leur Père céleste. Matthieu 18, verset 10. Après cette scène, je vis la maman assise à côté d'un cercueil avec un groupe de personnes. Les yeux fixés vers le plafond, elle était l'expression même du désespoir. Devant le cercueil se tenait l'homme à l'allure grave que j'avais vu entrer dans la chambre. Il lut un psaume, prononça la prière des affligés, puis leur prodigua des paroles d'encouragement, s'efforçant de les convaincre à partir de la parole de Dieu que, bien que mort, l'enfant revivrait et qu'un ange était venu pour le chercher, pour le placer dans le sein d'Abraham. Le groupe disparut, mais le petit enfant qui m'avait parlé précédemment me dit ces mots. Le corps sans vie que tu viens de voir dans la vision était la représentation de mon propre corps. La maman en larmes était ma propre mère. Cette scène est ce qui s'est réellement passé lorsque je suis parti. L'homme grave était le pasteur d'une église de ce monde. L'ange qui s'est arrêté en passant près de nous et l'esprit resplendissant de lumière qui m'a transporté loin, loin au-dessus de la puissance d'attraction du mal, en un lieu préparé pour les petits êtres fragiles et délicats. C'est là que certains anges sont spécialement désignés pour prendre soin des esprits des tout-petits, et ils s'y emploient constamment. Aimerais-tu visiter cette nurserie ? En disant ces mots, il leva les yeux vers l'esprit, comme pour demander la permission de m'y introduire. Un instant plus tard, nous nous élevions dans la même direction que l'ange qui emportait le petit enfant et avait disparu dans la lumière. Bientôt, nous nous approchâmes de ce qui semblait tout d'abord être une ville construite au milieu d'une prairie en fleurs. On y voyait des bâtiments magnifiques, des rues bordées d'arbres dont les feuillages dispensaient un ombrage agréable dans leurs branches. Là, dans leurs branches, il y avait des oiseaux de toutes les couleurs dont le chant varié se fondait en une parfaite harmonie. Beaucoup d'entre eux me rappelaient les oiseaux de la terre et pourtant, ils leur étaient d'autant supérieurs que le paradis lui-même est plus excellent que le monde des mortels. À mesure que nous avancions, la beauté ineffable de l'endroit se dévoilait. Un nouveau spectacle s'offrait à mes yeux. C'était l'architecture de ces édifices, ces sculptures en plein air, les jets d'eau étincelant dans la lumière, ces arbres au feuillage ondulant en vagues tranquilles, les fleurs, la beauté de tout cet ensemble atteignait à la majesté. Plusieurs avenues, enfin, montaient en pente légère, convergeant toutes vers un centre commun où nous nous dirigeâmes. Je me trouvai bientôt devant un vaste édifice aux structures compliquées. Des tours et des murs extérieurs paraissaient faits d'un marbre en apparence aussi délicat que la neige. Tout cela servait de fondement à quelque chose ressemblant à un immense dé, comme un dôme, mais dont la dimension restait telle qu'il n'y a pas de terme exact en architecture terrestre pour la définir. Nous approchâmes de cet ouvrage. Le dôme était suspendu au-dessus du vaste espace circulaire. Ceci, dit mon guide, est le lieu où tous les enfants sont rassemblés pour leur éducation. C'est là que les bébés sont amenés en premier lieu et nourris sous le sourire de leur ange gardien. Des nurseries toutes un peu différentes sont chacune une miniature de ce vaste temple où est dispensée une instruction parfaite. Chacune est un homme pour les tout petits esprits qui arrivent là pour être élevés. Quand leur degré de développement le permet, ils vont dans le paradis correspondant à la condition plus élevée de leur existence d'enfant pour recevoir graduellement une instruction adaptée à leur progrès intellectuel. À chaque nurserie sont attachées 7 anges maternels. Tu vois, Marietta, il n'y a pas 2 édifices qui soient exactement semblables, ni dans la beauté de leur intérieur, ni dans la forme ou la décoration extérieure. Pourtant, tout est harmonieusement réalisé. De même, chaque ange est différent par son rayonnement, son caractère propre, sa silhouette et son visage. Tu as reçu la permission de savoir toutes ces choses. Lorsque meurt un tout petit, l'ange qui transporte son esprit au pays de paix perçoit son type de pensée et ainsi le met avec les enfants ayant les mêmes affinités que lui, puis comme un habile horticulteur divise son jardin par sections, là, les diverses variétés de lys, ailleurs les roses, ailleurs les camélias, ailleurs les chèvrefeuilles, ainsi les anges, dans leur sagesse, vont répartir les jeunes esprits selon leur profonde tendance innée, artistique, scientifique, don de sociabilité, et vont placer chaque petit être dans le foyer correspondant le mieux à l'épanouissement des germes de sa vie intérieure, le but étant que chacun atteigne au développement harmonieux de ses talents intellectuels, artistiques ou pratiques. 7 anges gardiens veillent sur chaque nurserie, formant ensemble une unité d'éducation, comme un octave en musique. Chacun de ces anges a un type de pensée qui s'accorde parfaitement avec le groupe, de même qu'une note avec les tons et demi-tons qui lui sont associés dans l'échelle harmonique. Les petits enfants sont conduits chaque jour ou chaque période successive correspondant à un jour dans un pavillon central pour compléter leur nature à mesure qu'elle se révèle. Aussitôt que les enfants ont atteint un niveau leur permettant de se joindre à l'ensemble, dans le grand dôme central, cet extraordinaire temple de l'instruction, ils sont amenés d'abord de leurs différents foyers jusqu'au pavillon central de chaque groupe de nurserie et ensuite tous entrent ensemble, venant de leur quartier respectif, en s'avançant sous la nuée d'une chorale angélique qui chante avec puissance des Alléluia pour leur prince et seigneur. C'est aux accords de cette harmonie que les enfants sortent vers le temple extérieur. Quand l'Esprit eut fini de me parler, je vis qu'à notre droite, une partie d'un de ces petits temples était déplacé, comme s'il s'agissait en quelque sorte d'un rideau qu'une main invisible aurait tiré. Alors mes yeux, déjà si émerveillés, virent l'intérieur d'une nurserie entièrement illuminée de gloire artistiquement décorée selon la beauté majestueuse de tout ce paradis des enfants. Je me trouvais terriblement confuse, ayant le sentiment très fort d'être indigne de contempler un objet si ravissant et pur dans sa splendeur. Là, murmurai-je innocemment, c'est le ciel. Devinant mes pensées, mon interlocutrice ajouta, Marietta, tu vas avoir et voir se dérouler la vie de ces enfants. Entrons donc pour que tu connaisses la réelle condition de ceux qui, comme bébés, quittent le monde de douleur et sont immédiatement convoyés dans ce lieu où désormais le bonheur est leur partage. Les mortels savent bien très peu de choses sur la félicité de leurs petits disparus à l'aube de leur existence. Et ceux qui ont foi en Christ acceptent la séparation, mais surtout par soumission, une attitude normale d'un cœur qui est chrétien. Mais tu vois, j'étais une maman sur cette terre de chagrin, sur cette terre de séparation. J'y ai appris à pleurer, mais j'ai aussi appris la valeur sans prix de la foi en un Dieu qui fait grâce à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, Marietta, il m'a fallu dire adieu à mes enfants, car ils n'ont vécu que le temps de laisser un cœur de maman déchiré. Trois fois, j'ai serré avec tendresse sur mon cœur des bébés bien-aimés, chers de ma chair, os de mes os, vie de ma vie, levant mes yeux vers Dieu en rendant grâce pour ses précieux cadeaux. Mais à peine avais-je éclairé l'avenir de mon espérance, déversé sur eux tout mon cœur, que tels de tendres petits bourgeons, ils étaient frappés par le froid de la mort, me laissant meurtri et désolé. J'étais ainsi, là, mon unique espérance, et je les lui avais remis au Seigneur, ayant confiance qu'ils étaient bien. Mais Marietta, si j'avais alors pu voir ce que tu vois en ce moment, mon âme aurait connu un repos tellement supérieur, la connaissance étant ajoutée à la foi. Oui, ici, le petit bébé qui a laissé ses parents dans le déchirement ne fait que attendre leur arrivée. Lui, il est hors d'atteinte des méfaits du vice et du péché d'une race déchue. Regarde, Marietta, ces germes d'immortalité. Je m'appliquais à cette contemplation et alors ce qui s'offrit à ma vue était l'intérieur d'un temple tout paré de gloire, en étages circulaires, s'élevant les uns au-dessus des autres. On voyait de petites niches en demi-cercle. Dans chacune reposait un esprit d'enfant. Devant chaque qu'une, un ange gardien s'employait à faire de ce germe spirituel un esprit qui deviendrait prêt pour une vie de haute qualité, pour une existence éternelle de sainte utilité. L'ange souffle sur lui, et chaque souffle augmente sa capacité de vie, parce que c'est un souffle d'amour saint, d'inspiration parfaite, puisque l'ange lui-même puise sa vie en Dieu, dont l'esprit vivifiant remplit tous les anges dans les cieux. Une fois entré, je regardais ces enfants. À mesure que leur conscience s'éveillait, ils apercevaient l'ange qui veillait sur eux. Alors leur visage s'éclairait d'un sourire. Ils étaient heureux. Si je parvenais à dépeindre cette nurserie unique, de telle sorte que votre esprit puisse se faire une image exacte de sa magnificence glorieuse, mon bonheur serait entier, mais ce n'est pas possible. D'autres anges ont pour tâche de jouer très délicatement de leur mélodieux instrument. Cette musique se mêle à celle de leur voix, expression même de la beauté du ciel. Ce concert si doux, si délicat, si mélodieux, exerce un effet vivifiant sur l'esprit des petits enfants qui reposent sous le visage souriant des anges. Il rend actif leur sensibilité et leur communique de la force. Celle qui m'avait amené là me dit « Ceci n'est que un des multiples temples grandioses et correspond à tous les autres en sa perfection. Ici se trouve comme le lieu de naissance de ceux qui n'ont pas vécu assez longtemps dans le monde pour parvenir à l'état de conscience. Oh, si les parents pouvaient en saisir la réalité. De la terre, les tout-petits montent en ces lieux préparés pour eux. Mais tu sais, Marietta, tu n'as pas encore découvert la plus merveilleuse des réalités attachées à ce temple. » Et comme elle disait ces mots, chacun des anges s'éleva avec l'enfant dont il s'occupait et se tint immobile dans l'immense espace autour d'un ange qui portait la croix. Au même instant, vint d'en haut une lumière infiniment supérieure à celle qui éclairait le temple. Je restai alors muette d'émerveillement au spectacle grandiose d'un cortège formé d'anges, au milieu desquels se tenait quelqu'un semblable à l'apparence de l'être glorieux qui, tel comme me l'avait décrit, était mon rédempteur. À cette approche, l'image de la croix s'évanouit devant la lumière extrême. Le cortège des anges arrêta sa course et l'être qu'ils accompagnaient dit en souriant « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas. La douceur et la bonté de son expression, l'amour que reflétait son visage quand ses lèvres prononcèrent ces paroles me brisèrent tant que je tombais aux pieds de mon céleste guide. Il me releva et me serra sur sa poitrine. Oh, combien je voudrais que le monde entier pût voir et entendre ce qui arriva ensuite. Au moment des paroles de Jésus, chaque ange gardien s'approcha, lui présentant son trésor. Il étendit sur eux sa main et la bonté en découla-t-elle des gouttes de rosée que les tout-petits se mirent à boire comme s'ils buvaient à une source d'eau vive. Ainsi furent-ils bénis. Ce qui émanait de lui était le souffle de la vie. Le temple revêtit un aspect nouveau. À la fin de cette scène, les anges du cortège jouèrent de leurs instruments à cordes et chantèrent le cantique de la rédemption. Jésus étendit encore sa main, pleine de grâce, comme en hommage aux anges gardiens pour leur œuvre. Alors ils s'inclinèrent et se voilèrent la face dans le vêtement de gloire qui les enveloppait. Soudain, la musique, comme le bruit de puissantes eaux, jaillit de tous les temples dans l'immense nurserie de la grandiose cité. Cette splendeur musicale, peu à peu, se confondant en une majestueuse vague de chants angéliques. L'être divin, avec tous ceux qui l'accompagnaient, s'éleva. Cependant que les anges du temple reprenaient leur position précédente. « Ceci, dit mon guide, est la partie la plus simple des célestes activités ayant trait à l'occupation privilégiée de ceux qui élèvent les esprits nouveau-nés. Elle les prépare à un développement de leur personnalité ou leur faculté pourront être utilement employés. Si l'homme ne s'était pas écarté de la pureté et de l'harmonie, et par conséquent de la compagnie et l'affinité d'êtres de nature plus excellente, la terre eût été un lieu de choix pour les esprits à la naissance de leur vie. Le péché, Marietta, c'est le péché qui a mis une barrière entre la condition de l'homme et celle des anges, car par lui, sa nature morale a été changée. Les anges sont restés purs, en eux pas de souillure, aucun mauvais désir ne saurait éveiller chez eux une force malsaine. La vie émane d'eux dans toute sa pureté. Cette vie nourrit un élément qui lui ressemble. Des esprits plus dépendants s'élèvent dans leur halo de divine existence. Eux-mêmes évoluent au sein de la gloire qui est le privilège de compagnies plus excellentes qu'eux-mêmes. Ces compagnies vivent également dans la lumière et jouissent de la sphère de vie de créatures supérieures encore. Ainsi donc, tous ces êtres spirituels et purs, profondément unis, puisent à la source d'une vie plus élevée, et comme un tout d'une sagesse immense, ils existent par la vie émanant de Dieu le Père, qui est la vie de tous. Des globes et des systèmes supérieurs, de la même manière, évoluent dans les sphères d'autres créations plus élevées, puis recevant de celles-ci perpétuellement leur substance, ils sont purifiés et affinés jusqu'à ce que, qui était terrestre, puisse devenir spirituel, et que le spirituel devienne céleste. Les éléments discordants ne peuvent accéder à l'affinité avec ceux d'une nature supérieure. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils perdent en demeurant dans les ténèbres qui résultent de leurs conditions, et ils ne réalisent donc pas, à sa juste mesure, la nécessité et le bienfait d'avoir un sauveur. Oui, celui qui restaure l'affinité perdue, qui est notre Rédempteur. Ceux qui ont de la maturité sont rendus capables de comprendre la loi du salut, qui est la vie en Christ. À travers cette connaissance, ils sont conduits à une adoration de plus en plus parfaite de celui qui est leur Rédempteur. Tu as remarqué que à mesure que s'élevait celui qui bénissait les petits-enfants, toutes les chambres d'enfants de cette grande cité étaient à l'unisson dans leur louange à Dieu et à l'agneau. Cette ferveur était spontanée, car ceux qui connaissent les conséquences du péché sont mieux préparés à voir en Jésus une miséricorde infinie et à l'adorer du fond de leur être intérieur. Mais quand ils marchent au milieu d'eux, ils chantent des chants silencieux qui, lorsqu'ils s'éloignent, reprennent une expression audible. Ces êtres heureux, Marietta, ne pourraient pas plus s'empêcher de manifester leur joie et leur reconnaissance que la vie ne pourrait cesser de couler de celui qui est l'auteur même de la vie. Il en est ainsi à travers tout le ciel, et en particulier dans toutes ces demeures où se préparent les esprits des rachetés. Ne réalises-tu pas que chaque respiration de ces êtres autour de toi n'est qu'une parcelle de louange rendue à Dieu le Père? Si les hommes, étant encore dans leur corps, connaissaient la bonté de Dieu dans la rédemption, ils se détourneraient du mal et apprendraient la justice et les chemins de la paix. Marietta, comprends-tu tout cela? Dès que les anges eurent repris leur position première, mon guide m'informa que ces esprits d'enfants que je venais de voir bénis par le Rédempteur avaient été confiés aux soins d'autres anges, dont c'était la joie de les instruire doucement par des moyens adaptés à leur nouvelle progression. J'allais maintenant voir comment étaient reçus les enfants qui venaient de quitter la terre. Donc, après cela, je vis autour et au-dessus des anges reposant dans l'atmosphère sereine, attendant avec leurs trésors le moment d'entrer dans le temple. Quand les premiers anges se furent libérés de leur charge et se trouvèrent prêts à recevoir une nouvelle classe d'enfants, ils entrèrent et occupèrent le centre autour de la croix. Ces anges, dit mon guide, groupés dans une lumière plus grande que celle du temple, sont d'une nature plus haute et plus exaltée. D'eux procède un halo de lumière supérieure, et cette lumière et la vie émanant de l'amour. Ne vois-tu pas comme elle se concentre, enveloppant de sa protection ces existences non encore développées, dans les bras de leur ange gardien? Ce qui est nourri par chacun des anges est un esprit dont la vie vient de commencer et qui, à cause des lois naturelles violées, a été séparé prématurément de sa forme enfantine dans le monde extérieur. Cette douce musique émeut chaque fibre de l'être, alors que l'Esprit suprême le réorganise et lui donne une capacité élargie, adaptant chaque organe à l'organe voisin dans l'harmonie de la perfection, établissant ainsi le tonus et l'énergie propre du système. L'esprit vivifiant donne énergie et expansion aux principes de vie qui se développent en sorte que l'intelligence puisse percevoir la faculté de jugement à gérer, la compréhension à discerner la réalité, et que l'être entier puisse jouir de sa propre vie. Chers amis, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, prier ensemble. Mais avant, j'aimerais vous transmettre quelque chose, quelques enseignements et encouragements. Marchez à son pas, de l'avant toujours et dans la joie. Marchez avec le Seigneur jusqu'à ce que vos pas, hésitants et défaillants, se rangent à la cadence des siens et acquièrent une fermeté, une sûreté jusqu'alors inconnue. Oui, marchez avec lui jusqu'à ce qu'un entrain de bon aloi révèle en vous l'attitude confiante qu'il communique à ceux qui le suivent et que votre être tout entier frémisse de joie et la pensée de tenir de lui sa vie, la vie de Jésus-Christ, sa force de réalisation et même sa capacité de souffrir. C'est ainsi qu'une authentique communion en Jésus-Christ vous amène à pressentir ce dont il a besoin pour les autres et ce qu'il désire pour eux. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Des paroles comme celle-là dénotent à coup sûr une ferveur d'enfant, celle de l'amour vrai, celle même qu'on éprouvera face à l'aventure à courir pour lui rester fidèle, car à son service, qui mène on ne sait pas toujours où, il arrive toujours qu'on éprouve un jour ou l'autre, le frisson de l'aventure. Et chers amis, maintenant, nous allons donc prier ensemble. Sainte Majesté, que nous sommes des pauvres pécheurs, conçus et nés en iniquité et corruption, enclins à mal faire, inutile à tout bien, et que nous transgressons sans fin et sans cesse tes saints commandements. En quoi faisant, nous acquérons par ton juste jugement ruine et perdition sur nous. Toutefois, Seigneur, nous avons le déplaisir en nous-mêmes de t'avoir offensé et condamnons-nous et nos manquements avec vraie repentance, désirant que ta grâce subvienne à notre calamité. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu et Père, plein de miséricorde, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, et en effaçant nos vices et souillures, augmente de jour en jour les grâces de ton Saint-Esprit, afin que reconnaissant de tout notre cœur notre injustice, nous soyons touchés de déplaisir qui engendre droite pénitence en nous, afin que celui que ça puisse produire les fruits de justice et innocence qui te soit agréable par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et chers amis, à demain matin pour la suite de cette série. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à bientôt.